Dans l'organisation des villes et dans la gestion de la chose publique, les Italiens imitent encore le zèle des anciens Romains. Finalement, ils aiment la liberté d'une telle ardeur que pour éviter les abus de l'autorité, ils préfèrent se faire gouverner par des consuls plutôt que par quelqu'un qui leur donne des ordres. Extrait d'une lettre de l'évêque allemand Otto von Freising lors de son séjour en Italie en 1154.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le développement des communes en Italie centrale et septentrionale est un phénomène historique capital dans l'histoire de la péninsule et de l'Europe médiévale. Durant la première moitié du XIIIe siècle, environ la moitié de la population urbaine de l'Europe se trouve en Italie. À la fin du siècle, plusieurs cités italiennes comptent 80 000 habitants. Milan, Venise, Florence, Gênes. D'autres avoisinent les 50 000 habitants. Crémone, Vérone, Brescia, Bologne, Sienne, Pise, Pérouse. Les cités de 30 000 habitants sont très nombreuses. Ainsi, le dynamisme urbain marque profondément l'histoire économique, sociale, artistique et politique de l'Italie. Comment expliquer ce développement des villes ? D'abord par des conditions économiques favorables. Les débuts du XIe siècle accentuent un développement économique dont on peut observer les prémices déjà à l'époque carolingienne. Le Pô devient un axe de transport très important vers l'Adriatique. La proximité de la mer fait de bien des cités italiennes des centres d'échange de plus en plus actifs. L'Italie étant au carrefour de la chrétienté latine et des mondes byzantins et musulmans, les commerçants italiens s'activent beaucoup en Orient, où ils transportent du bois, du fer, voire des armes, et dont ils ramènent des épices, de l'ivoire, de la soie. Ceci est particulièrement vrai pour les Vénitiens, les Génois et les Pisans, bien organisés en associations commerciales. L'empereur byzantin accorde des privilèges commerciaux aux Vénitiens en 1082, aux Génois et aux Pisans en 1111 et 1155. De plus, le contexte des croisades favorise l'implantation des Italiens en Orient. Les Génois s'installent à Acre en 1104, les Vénitiens en 1110, les Pisans en 1168. À la fin du XIIe siècle, ce sont les bateaux génois qui transportent des pèlerins venant du Maghreb et d'Espagne du Sud vers la Mecque. Il y a bien des relations entre le monde musulman et le monde chrétien. En fait, on ne fait pas que se battre. Mais les commerçants italiens sont également présents en Occident. On les trouve aux foires de Champagne en 1168, puis à Paris, où résident une vingtaine de firmes italiennes. De même en Flandre et en Angleterre à partir des années 1270. Le vocable de Lombard cache en réalité des firmes d'Italie centrale, les familles siennoises des Tolomei, des Cacciaconti, des Folcaggieri, des Albizzi, des Alberti. L'expansion économique favorise donc une production variée et la naissance d'une grande industrie textile. L'industrie drapière en particulier s'intensifie dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Un document de 1274 sur le commerce de tissus entre Crémone et Venise signale les grands centres de production de draps de qualité que sont Bergame, Bologne, Brescia, Côme, Crémone, Milan, Pavie et Florence. Le développement des villes s'accompagne de la maîtrise de la campagne proche, il contado. Celui-ci est fondamental pour l'approvisionnement des cités. La maîtrise des communautés rurales ne se fait pas toujours à l'amiable et des interventions armées sont souvent nécessaires. Une fois la soumission acquise, les pouvoirs municipaux entreprennent des grands aménagements, assèchement de zones marécageuses, remembrement, irrigation, aménagement de routes. Ces politiques participent à l'accroissement de puissance des villes. Entre 1118 et 1128, Milan, par exemple, parvient à étendre son influence jusqu'à Lodi et Côme. En 1278, c'est au tour de Florence de dominer 31 communes rurales dans sa proche campagne. À partir de quel moment émerge la forme politique de la commune italienne? Une chronologie sommaire permet d'éclairer cette question. En 1063, Plaisance s'organise en commune libre. Et à la fin du XIe siècle, sont attestées celles de Crémone, d'Asti, de Lodi, de Pavie, de Bologne et de Viterbe, de Milan et d'Arezzo, ainsi que Gênes. Au début du XIIe siècle, un gouvernement communal est présent à Pise, à Pistoia, à Bergame. Mais un problème politique se pose alors. Le rapport de soumission vis-à-vis de l'empereur du Saint-Empire, qui est souverain en Italie du Nord. Or, le développement du système communal empiète sur son autorité. En 1110, Henri V entreprend une expédition qui aboutit à la soumission des villes lombardes. Mais celle-ci se fait sous la contrainte et est mal exercée. En 1155, Frédéric Ier Barberousse incendie Asti et détruit Tortona, afin d'en faire des exemples de son autorité. Mais loin de briser la volonté d'affirmation des communes, l'événement stimule la volonté de résistance. En 1167, se constitue la Ligue Lombarde. Désireux de ne pas laisser son autorité bafouée, l'empereur Frédéric Barberousse organise une expédition militaire, mais il subit une importante défaite à Legnano le 29 mai 1176, au cours de laquelle la cavalerie impériale est mise à mal par les fantassins des milices communales. Ainsi, l'autorité de l'empereur n'arrive pas à s'implanter véritablement, et c'est bien au profit des communes que s'organise le politique. Sur le plan institutionnel, la commune italienne est une construction originale dans le monde médiéval. Les cités se dotent de consuls pour administrer les affaires publiques. Ces consuls sont désignés par il popolo, qui représente le peuple citoyen regroupé en une assemblée appelée la rengo. Il popolo se divise en deux parties principales. D'abord, il popolo grasso, qui contrôle le pouvoir communal composé des principaux marchands et représentants des arts majeurs. Ensuite, ce qu'on appelle il popolo minuto, qui regroupe ceux qui payent le moins d'impôts, et il capitano del popolo est le représentant des habitants auprès des autorités communales. Autre institution importante, le gonfalonier, qui est à l'origine le porte-étendant d'un quartier et qui obtient la responsabilité de l'ordre public, d'où le fait qu'il est également souvent le chef de la milice urbaine. Ce qu'il faut bien voir également, c'est qu'il y a une véritable concurrence de beauté entre les villes italiennes. En effet, la multiplicité des villes, et donc des pouvoirs communaux, favorise le développement de l'urbanisme et la multiplication des édifices publics, signe de la grandeur de la ville et objet de concurrence entre les cités. Les murailles sont la marque de la liberté communale et de la puissance militaire de la cité. Selon la formule, le mur fait la ville. Ainsi, Pise en 1132, Florence en 1176, avec un dernier agrandissement au XIVe siècle. Les remparts florentins forment ainsi un ensemble de 8 km de pourtour, avec 70 tours, hautes d'une vingtaine de mètres. Autre symbole fort des communes italiennes, le campanile. L'un des plus beaux est la Torre della Mangia, culminant à 102 mètres au-dessus de la Piazza del Campo de Sienne. Les édifices religieux sont également un enjeu important dans le renforcement des structures urbaines. Les communes rivalisent dans l'édification d'églises, de cathédrales. L'historienne Cécile Cabi a pu évoquer à propos du christianisme une affaire civique aux yeux des pouvoirs communaux. À Pise, l'œuvre de la cathédrale Santa Maria Assunta est d'origine épiscopale au milieu du XIe siècle, mais progressivement, les autorités communales deviennent responsables du chantier jusqu'à sa consécration en 1118. À Pérouse, la reconstruction de la cathédrale San Lorenzo, entamée en 1300, est une initiative des autorités laïques, sans que l'évêque n'ait aucunement pris l'initiative. La construction de l'église San Petronio de Bologne est décidée par les seules autorités municipales en 1390. Elle est perçue comme une sorte de concurrence vis-à-vis de la cathédrale San Pietro de Bologne. De riches familles de notables prennent également des initiatives. À Padoue, les Scrovegni entament au début du XIVe siècle l'édification d'une chapelle attenante au palais familial, pour laquelle il faut intervenir Giovanni Pisano et Giotto. Bien sûr, l'église n'est pas totalement absente de cette floraison de chantier. Ainsi, en 1228, le pape Grégoire IX pose la première pierre de l'imposante basilique qui allait être construite au-dessus de la tombe de saint François d'Assise. Vous l'avez compris, le phénomène communal est un moment important de l'histoire de la péninsule italienne. Il a grandement participé à la conception que les Italiens ont de leur propre histoire, en développant le campanilisme, sorte d'esprit de clocher. Il a fait également de l'Italie un foyer économique et artistique important, grâce à une véritable émulation stimulante des cités. Mais cette émulation connut une terrible limite. En 1139, la ville de Sienne décida d'agrandir la cathédrale Santa Maria Assunta afin d'en faire l'une des plus vastes d'Italie. 2 ans plus tard, le chantier est brutalement interrompu. L'épidémie de peste noire venait de frapper l'Italie.